Patriarca, patrie, patriarca, patrie.
Le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche.
Butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hot.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon.
Dégenrer, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme à pur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous écoutez Dégenrer, l'émission féministe pour déranger. Et ce soir, on a choisi de vous passer la retransmission d'une intervention d'Isman Schuder lors d'une conférence qui a eu lieu à Grenoble et qui était intitulée « Femmes, voiles et féminisme ». Et Isman Schuder, elle était invitée en tant aussi que membre du collectif des féministes pour l'égalité et co-auteur du livre « Les filles voilées parlent ». Cette conférence, elle était organisée par le Parti des indigènes de la République.
Et à cette conférence, il y avait donc quatre personnes invitées, donc Isman Schuder, à qui on va laisser la parole ce soir. Il y avait aussi trois autres invités, une militante d'une association grenobloise. Cette militante portait également le voile. Malheureusement, on a oublié son nom, on s'excuse, et le nom de son association en plus. Donc vraiment, bon, mais on pense à elle. un militant pro-féministe. Et un militant du collectif contre l'islamophobie en France.
Voilà, et cette conférence, en fait, elle avait lieu ce 8 mai 2011, qui est aussi une date symbolique, parce que c'est la commémoration du 8 mai 45. Alors peut-être, sûrement, qu'on vous a seulement appris à l'école que le 8 mai 45, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La libération.
C'est ça. Mais en dehors de ça, ça a aussi été en fait le début de massacres en Algérie, notamment à Sétif. C'est-à-dire que l'armée française réprimant dans le sang des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie. Et cette répression qui a quand même été une des plus sanglantes aussi au niveau du nombre de tués, en fait, quoi. C'était vraiment un véritable massacre. C'était une des plus sanglantes de l'histoire coloniale française. Mais par la suite, elle était collectivement et délibérément occultée de l'histoire officielle, quoi. D'où le fait que sûrement, en fait, on nous en a jamais parlé à l'école, par exemple. Et donc voilà, ça avait aussi un sens d'organiser cette conférence ce jour-là.
Alors, on voulait aussi faire un rapide historique de ces histoires de loi sur le voile en France. Alors, ça va être un historique très, très rapide. Hein. Si vous voulez un approfondissement, je vous conseille vraiment d'aller faire des recherches sur Internet ou en lisant les livres qu'on vous conseillera tout au long de l'émission. Mais les premières affaires médiatiques autour du voile remontent à 1989, où il y a eu donc un peu les premiers grands débats médiatiques et politiques autour de ces questions-là. Dans les années 90, ça a continué avec, on estime à peu près une centaine de filles qui ont été exclues de collège ou de lycée parce qu'elles portaient le voile. Alors la plupart de ces exclusions ont été annulées par les, enfin la plupart, peut-être plus de la moitié, enfin ont été annulées par les tribunaux. C'était un peu du cas par cas, c'était un peu selon le bon vouloir ou le mauvais vouloir des proviseurs, des principaux de collège et tout. Et donc finalement, le monde politique et notamment le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, en 2003, décide qu'il faut une loi sur les signes religieux à l'école. Et donc, il va commander une commission qui s'appellera la commission Stasi, du nom de Bernard Stasi, l'homme politique qui a été placé à la tête de cette commission. Commission qui va œuvrer entre 2003 et 2004 pendant un an. Je passe rapidement sur comment on peut critiquer la façon dont elle a été menée, cette commission, pour aboutir à la loi sur le port des signes religieux ostensibles en mars 2004, qu'on appelle plus communément la loi sur le voile à l'école, ou la loi sur la laïcité d'ailleurs.
Oui, c'est ça, d'où l'hypocrisie aussi de dire oui, c'est une loi sur la laïcité pour réglementer les religions en général, alors que de fait, c'est pas pour rien que ça a été appelé l'affaire, l'histoire du voile, du foulard, etc., parce que ça visait clairement la religion musulmane et le port du foulard.
Et donc, elle a été votée en mars 2004, et donc c'est à la rentrée 2004, en septembre, à la rentrée des classes, que cette loi va être appliquée, avec de nombreuses exclusions des élèves qui refusent d'enlever le voile, avec de nombreuses élèves qui acceptent sous la contrainte, la plupart choisissent de se découvrir la tête au sein de l'école publique. Et nombreuses aussi ont été celles et sont encore celles qui tentent de se faire accepter en portant un béret, un bandana, c'est-à-dire dans un truc de compromis entre leur foi personnelle et donc la loi française. Donc ça, c'est donc depuis 2004, il y a eu de nombreuses discriminations aussi des femmes qui portent le voile. On le sait, donc ce printemps, là, le 11 avril 2011, il y a eu la loi sur le port du voile intégral dans l'espace public qui, du coup, interdit aux femmes de porter le voile intégral dans l'espace public. On en parlera tout à l'heure un peu plus tard quand on parlera de l'islamophobie.
Et cette question du voile ou du foulard, c'est un sujet qui a beaucoup et qui continue de beaucoup diviser les mouvements féministes. Ismaël Chouder en parlera aussi pendant la conférence. Et nous, au niveau de l'émission de Radio Dégenrée, ça nous a toujours paru, aussi dès 2003 quand il y a eu cette affaire-là, important de se positionner contre des lois qui, de fait, sont des lois sexistes, racistes, qui stigmatisent les femmes.
Liberticides.
Aussi. Et qui vont encore opérer en fait des divisions entre femmes, entre les bonnes, les mauvaises, les émancipées. Mais bon, juste ce qu'il faut, parce qu'il ne faudrait pas non plus passer dans la catégorie pute. Hein, c'est voilà quoi. Donc les émancipées, les soumises, etc. En faisant des catégories où il y a les femmes émancipées, celles qui ne correspondent pas au bon modèle que voudrait la France. Et on refuse aussi une instrumentalisation du féminisme par des pouvoirs publics, étatiques, médiatiques, qui, tout le reste du temps, n'ont strictement rien à foutre, faut bien le dire, du droit des femmes ou quoi que ce soit, quoi, ou de l'égalité effective homme-femme. Mais tout d'un coup, quand c'est arrangeant pour des raisons électorales, des raisons de climat, de surfer sur un climat raciste, islamophobe, etc., tout d'un coup se préoccupent, ou pour justifier des guerres, quoi, vont se préoccuper tout d'un coup du sort des femmes. entend aussi, puis ben là en l'occurrence aujourd'hui, quoi, on peut dire en tant que féministe blanche athée et aussi ben issue d'une culture politique anticléricale, hein, on peut dire pour certaines, ça nous semble important de reposer le débat en sortant de la question de pour ou contre le voile. Mais pour en revenir à pour ou contre la loi et du coup en revenir aux conséquences de lois qui excluent certaines femmes. Et ça nous paraît vraiment important de le faire en écoutant la parole des premières concernées. Parce que comme dans toutes les fois aussi où le féminisme est instrumentalisé pour justifier des politiques racistes, xénophobes, postcoloniales, la parole des premières concernées, elle est occultée, elle est discréditée, soit dans le truc de « elles sont manipulées », soit « elles sont manipulatrices », hein, au choix c'est aussi de la victime à la délinquante un peu.
Au diable.
Et du coup, justement, c'est dans cette idée de revenir à la parole des premières concernées, qui nous paraît aussi un des points importants dans nos bases féministes, qu'on a choisi principalement pour cette émission de vous retransmettre l'intervention d'Isman Chouder, où on a quand même effectué quelques coupes pour des raisons de temps, en fait, de l'émission. Donc voilà, on vous laisse à l'écoute de cette conférence.
Bonjour à toutes et tous. D'abord, donc, je remercie le Pierre pour cette invitation, auquel j'ai répondu favorablement, notamment au vu de l'aspect mémoriel. Et juste aussi, donc, pour vous indiquer d'où je parle, je suis moi-même descendante d'arrière-grands-parents, puisque je suis française depuis 3 générations maintenant, d'arrière-grands-parents qui sont originaires de Sétif. Alors, mon propos, pour planter le cadre... je ne vais pas du tout vous parler du voile en tant que tel, pour ou contre le voile. Je vais bien vous parler de l'articulation entre femme, foulard, et j'expliquerai pourquoi je préfère le terme foulard vu la conjoncture actuelle autour du voile intégral, et alors pour ma part, des féminismes. Donc, en tant que présidente du collectif des féministes pour l'égalité, aussi pour faire un préalable terminologique, d'entrée de jeu, je vais donc me situer par rapport à la définition sur laquelle je m'appuie du féminisme. Et donc, je citerai en cela Simone de Beauvoir, qui dit que le féminisme est une notion radicale qui fait des êtres humains d'abord, qui fait des femmes d'abord des êtres humains. Comme ça, la question... est pliée, et je vous demanderai donc de garder toutes vos perceptions, représentations et projections, articulées sous le prisme de cette définition que je vous donne d'entrée de jeu. Et j'ai envie aussi, donc en préalable, donc, de citer un slogan éminemment féministe qui va aussi me situer un petit peu l'articulation que je voudrais donner à mon intervention et ensuite au débat. Le fameux slogan féminisme qui dit donc ne me libérez pas, je m'en charge. Alors à l'introduction, je voudrais d'abord faire 2 remarques qui ont valeur de constat sur ces questions. Donc femmes, foulard, voile, féminisme au pluriel. C'est que depuis 10 ans à peu près, en tout cas à minima, nous sommes passés d'un mode d'analyse culturelle de ces questions, de lutte de femmes et des féminismes, donc d'un mode d'analyse culturelle. D'un mode d'analyse plutôt historique et analytique à un mode d'analyse culturelle. Qu'est-ce que j'entends quand je dis ça ? Ça veut dire que la question des femmes est abordée depuis ces 10 dernières années sous le seul prisme, donc, soit du culturalisme, du relativisme culturel, d'accord, soit sous le seul prisme d'une lecture donc, racisée, raciale, d'une certaine catégorie de population, en l'occurrence les femmes. Alors dites musulmanes, issues de cultures musulmanes ou de pratiques musulmanes. Et que le résultat de ce glissement, de cette analyse, aboutit à quoi ? A abouti à la construction finalement d'un ennemi culturel, idéologique, politique. D'accord ? Et cet ennemi, il est désigné, ces 10 dernières années, au bas mot, comme étant justement l'individu de confession musulmane. L'autre remarque, c'est, je me baserai sur en fait ce qu'une anthropologue américaine qui s'appelle Lila Aboulkhod nomme l'obsession pour le sort des femmes musulmanes ou issues de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, en tout cas ces dix dernières années, à minima, je le répète, il y a une espèce de montée en puissance médiatique, politique, idéologique, de s'emparer de la question de la femme musulmane, d'accord, comme étant, de manière figée, irréductible et définitive, le symbole de toutes les discriminations, stigmatisations du tort fait à la femme sous le prisme du sexisme, du patriarcat, de la misogynie et du machisme. Alors en pointant ces deux remarques, ça n'est pas non plus pour la tomber dans l'autre effet pervers qui serait de pointer les femmes, là aussi, les femmes musulmanes comme étant de perpétuelles victimes, en l'occurrence ici des victimes d'une certaine lecture, d'une certaine perception, d'un certain regard sur elles, porté sur elles, mais simplement pour vous dire quoi, qu'en fait, actuellement, tous les comportements en fait, sociaux de ces femmes sont appréhendés uniquement par le biais de leur appartenance culturelle. Et ça, c'est gravissime. Autre constat, c'est que, en tout cas, au moins sur le constat global, on sera tous et toutes d'accord, c'est que l'islam fait partie, et les musulmans, donc, font partie intégrante du paysage français et européen. Et que l'islam, en l'occurrence, est éminemment questionné, interrogé, donc depuis ces 20 dernières années, et particulièrement sa composante féminine. Et elle est interrogée non pas dans le sens d'une interrogation qui serait légitime, mais interrogée sous le prisme de justement essayer de faire d'elle justement cette égérie de la femme soumise. Soumise à quoi ? Alors à un patriarcat qui serait consubstantiel à nos religions, en l'occurrence l'islam. Donc statut de victime, objet même des situations qu'elle subit, et cela toujours rapporté à quoi ? Objet donc de discrimination de qui ? D'une religion, d'un message, en l'occurrence le texte coranique ou le message islamique, de garçons, d'hommes, tant qu'à faire de quartier, arabes et noirs, d'une culture et donc d'une religion toujours renvoyée à l'autre, l'autre avec un grand A. Et donc, on assiste bien à une racialisation des questions sociales qui pourrait justement, que l'on pourrait, sous le prisme duquel on pourrait interroger ces citoyennes de confession musulmane. Sauf que ce n'est pas le cas. Et bien souvent, et c'est pour ça que je remercie d'autant le pire de cet espace de débat, c'est que bien souvent, les débats sur le statut de la femme musulmane, sur la discrimination, sur l'assujettissement, sur la subordination des femmes musulmanes ou des femmes de quartier, se fait uniquement sous l'angle sociologique, mais complètement déconnecté des principales concernées. En l'occurrence, on parle bien ici de femmes. Sujet de ce qu'elles sont, de leur histoire, de leur vécu au quotidien, et sujettes en même temps de discrimination, mais qui les touchent non pas parce qu'elles sont musulmanes, mais bel et bien parce qu'elles sont des femmes, et qu'à ce titre, elles sont traversées par les mêmes discriminations et mêmes stigmatisations, pour le coup universelles, que subissent toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance culturelle ou autre, religieuse ou arreligieuse, j'entends bien aussi. Donc voilà, donc dans un premier temps, j'aborderai la question un petit peu de l'état des lieux de la représentation des femmes donc, dites de confession musulmane dans notre société. Alors cet état de lieu, moi je vais l'aborder sous la forme d'un enjeu ou d'un défi que je vis au quotidien en tant que donc, femme française, occidentale, de confession musulmane, féministe. Et j'entends bien, et je suis prête aussi à recevoir, tout ce que cela implique en tant que processus qui de mal-être, de malaise par rapport à ça, surtout par rapport à un public, et je ne parle pas de vous, mais un public au sens large, pour qui associer les termes de musulman et féministe, d'accord, à défaut d'être un oxymore, est irréductiblement antinomique ou antagonique. Et là, en l'occurrence, je me base sur mon expérience d'un collectif, qui est le collectif Féministes pour l'égalité, qui est né dans le contexte de la loi du 15 mars 2004. Et nous sommes donc un certain groupe de femmes, alors de toute confession ou sans confession, de toute appartenance culturelle, générationnelle, professionnelle, et autres qui se sont retrouvés finalement sur ce que je pourrais nommer des invariants, et qui sont finalement ces critères, ces principes fondateurs de toute lutte pour l'émancipation de toutes les femmes, et je dis bien toutes les femmes, et pas d'un modèle de femme. Et ces principes, ces invariants, en fait, c'est donc la liberté de choix, la liberté de choisir sa voie d'émancipation, toujours en gardant en arrière-plan « ne me libérez pas, je m'en charge ». Et donc le droit de choisir, la liberté de choisir et de se définir, et de se définir à la première personne, sans être comptable du sort des femmes au-delà, certes, de nos frontières, mais surtout dans les pays dits musulmans. Et là, en l'occurrence, dans ce collectif, donc je vais sciemment vous citer quelques membres en la personne, par exemple, de Christine Delphi, à qui on ne peut pas reprocher d'être une fondamentaliste activiste. Certains l'ont traité de voilée par procuration. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je vous assure. Voilée par procuration. Alors, alors moi, ce que j'entends derrière, peut-être, c'est une espèce de... Alors, soit ce sont ces femmes féministes dans ce collectif qui sont manipulatrices, peut-être membres d'une cinquième colonne fasciste qui avance sournoisement. Et de l'autre côté, mais alors... dans ce cas-là, si c'est moi la manipulatrice et Christine Delphi, la blanche, qui est manipulée, sauf insulte à son intelligence, j'aimerais bien, dans ce cas-là, qu'on m'explique qui est soumise, en l'occurrence. Du foulard, c'était une question éminemment secondaire pour nous, du moment préalable, et j'y reviendrai à chaque fois, que ce soit l'émanation d'un choix et d'une liberté de choix, première. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, très vite, ce qui nous a, les convergences sur lesquelles nous sommes retrouvés, c'est la cause des femmes, c'est le sort fait aux femmes dans nos sociétés, et c'est-à-dire une femme dans ce pays qui meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint. C'est les violences conjugales, c'est à compétence égale, non seulement salaire inférieur, mais tâches subalternes. C'est la situation aussi, la position des femmes dans les relations, aussi dans les relations de couple, dans les relations de famille, Dans le même temps qu'on était mobilisés sur ces questions, et on y était mobilisés sur le terrain, en synergie avec des associations de femmes, en tout cas celles qui ont bien voulu travailler avec nous, parce que celles qui ne veulent pas travailler avec nous, pour qui le fait de porter une femme qui porte un voile et se dire féministe, et en plus s'engager sur des questions sur lesquelles elles ne sont pas censées s'engager, puisqu'elles sont censées les promouvoir, refusent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui de travailler avec nous, refusent le débat dans des espaces de débat qui sont ouverts et dans lesquels nous les invitons, sans aucune exclusive, sur la base, y compris d'un débat contradictoire, y compris sur des débats de fond. Donc nous nous sommes retrouvés sur ces questions, et évidemment sur des questions sur lesquelles nous sommes interpellés, pas des questions que l'agenda politico-médiatique nous impose, donc à savoir l'excision, les mariages forcés, et ainsi de suite, tous en fait comme si nous étions comptables et redevables de toutes les injustices, de toutes les discriminations et de tout le sort, certes barbare, qui est fait au nom du religieux, et je dis bien au nom du religieux, dans des pays dits musulmans. Mais j'entends aussi faire passer ma voix et dire que ce n'est pas parce que ces atrocités sont commises au nom du religieux que c'est les religieux qui le permettent. Et dans tout mon discours, je serai très attentive et je compte aussi sur votre attention pour à chaque fois détricoter la complexité qu'articule ce type et ce genre de questions. Rien n'est blanc ou noir. Les dégradés de gris sont incommensurables, notamment sur ces questions. Et tant qu'on n'apportera pas de la nuance dans ces questions, on ne sortira pas de la polarisation sur un seul critère qui mine tous les débats et qui est la polarisation sur les tenues vestimentaires. Et le foulard, et le voile intégral, et les robes longues. Je ne sais pas pour ceux qui sont au courant de ce qui se passe sur un lycée de Saint-Ouen, d'accord, où des jeunes filles sont menacées d'exclusion parce que leurs robes, elles viennent tout le temps avec des robes longues. Et que par analogie, leurs robes longues sont devenues des signes ostensibles. Et je reviendrai par après, dans la logique sur laquelle nous sommes aujourd'hui maintenant, avec le nouveau code de la laïcité qui est en promulgation par, nos chers. J'aurais menti, là, j'aurais pas été sincère. Nos députés UMP par rapport aux 26 propositions qui intègrent notamment... le fait d'assimiler, donc concrètement, on va arrêter les jeux techniques et subtils en disant qu'ils visent concrètement à exclure les mamans qui portent un foulard des activités scolaires et des sorties en tant qu'accompagnatrices de leurs enfants sur leur sortie scolaire. Donc voilà, donc je disais l'autre, et donc en l'occurrence la femme de culture ou de religion ou de pratique, là aussi je suis désolée, je suis obligée de dégrader, de nuancer, parce qu'on s'y perd, parce que maintenant, on a introduit des subtilités dans le discours et dans le langage qui fait que maintenant, une femme issue de se disant musulmane, d'accord, doit justifier sa bonne pratique ou pas. Sous-entendu que si elle ne porte pas un foulard, c'est une musulmane acceptable, et que si elle en porte un, elle n'est pas acceptable, parce que l'une est catégorisée comme modérée, l'autre comme intégriste, et alors je retourne le stigmate, parce que si tant est... On nous prête les propos que, au nom de quoi, une femme musulmane qui ne porte pas un foulard serait une meilleure musulmane que celle qui le porte. Ça aussi, en tant que féministe et en tant que femme musulmane, je le réfute. Et j'aimerais être entendue pour ce que je dis, et non pas pour les projections qui sont faites sur mon discours, sous-entendu, évidemment, double discours. Donc, nous avons donc des représentations persistantes qui traversent un certain type de discours féministe et un certain type de pratique féministe. Et nous sommes actuellement, et je pense que c'est... Alors la question était, est-ce que les... Alors ça m'a fait sourire, parce que dans l'intitulé, en fait, de cet après-midi, il y avait une question, je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas, c'était les femmes qui portent en foulard aujourd'hui, sont-elles les nouvelles féministes d'aujourd'hui? Alors moi, ça m'a fait sourire. J'imagine que d'autres, ça leur a fait hérisser les cheveux sur la tête. Sous-entendu, évidemment, toujours l'opposition réductible entre comment peut-on se réclamer du ou des féminismes en intégrant aussi à la lumière d'un référentiel religieux. Ben oui, ça existe. Et ça existe d'autant plus que, bizarrement, quand il s'agit de féminisme, par exemple, la théologie de la libération, c'est accepté parce qu'elle provient finalement de profils de blancs. Alors là, je parle de blancs en tant que catégorie politique. N'allez pas me faire dire ce que je dis pas ou comprendre n'est-ce pas ? Les Blancs en tant que catégorie racisée, qui promulguent la pensée unique, la pensée dominante, sous la bannière de laquelle il faudrait se ranger pour en fait obtenir son certificat de voilà, droit de l'hommiste, féministe, et ainsi de suite. Et bien justement, oui, si vous voulez, ces nouvelles féministes, parce qu'en ce sens où nous sommes jeunes, nous sommes une génération qui a émergé il y a à peu près une petite quinzaine d'années, en tout cas pour ma part, c'est que oui, ces nouvelles féministes allient en fait et font l'injonction entre le féminisme dit historique, dont nous nous réclamons les héritières aussi, mais dont nous n'acceptons pas tout, parce qu'il y a beaucoup à critiquer aussi dans une certaine forme de féminisme qui s'est construit dans une espèce de modèle absolu, et ce modèle valant comme modèle universel pour toutes, pour tous les temps, quels que soient les contextes et quelles que soient les configurations. Et nous, et moi aussi, dans ma pratique féministe avec mes copines, musulmanes, non musulmanes, voilées, non voilées, athées et autres, homosexuelles aussi, et ben nous sommes là pour dire que nous avons fait cette espèce de jonction qui est de dire que nous avons des parcours, des histoires singulières. Et que ces histoires singulières et ces parcours aussi, en tant qu'individus, eux, sont à mettre au pot commun des luttes de femmes et des luttes et des mouvements de lutte de femmes aujourd'hui dans nos sociétés européennes. Et qu'on ne peut pas s'en dédouaner au prétexte qu'elles ne collent pas à ce qu'a été une certaine lutte en un certain temps. Et que nous nous inscrivons aussi, bien évidemment, dans ces processus d'émancipation, d'autonomisation des femmes. Et que ça passe aussi par des logiques qui sont convergentes et communes à toutes, quelles que soient nos appartenances. Alors, cette polarisation sur la tenue vestimentaire, elle nous pourrit la vie à toutes et tous, depuis, à minima, depuis 89. Mais bon, j'étais plutôt jeune en 89. Et là, de manière exacerbée, avec des abcès de fixation, donc depuis 2001, depuis 2004, avec la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux, depuis l'année dernière, avec la loi dite interdiction de dissimulation du visage sur la voie publique, mais en l'occurrence, soyons honnêtes les uns vis-à-vis des autres, c'est une loi qui était destinée aux femmes portant un voile intégral. Et quels que soient les avis des unes et des autres sur le voile intégral, et j'ai un avis propre, si vous voulez, vous pourrez m'interroger dessus après, mais le cœur de la question n'est pas et ne devrait pas être pour ou contre le foulard, pour ou contre le voile intégral. Le fond et vraiment la base principielle de ces questions devrait être quel respect pour chaque femme de sa façon de s'habiller. Parce qu'en l'occurrence, le débat, il est là. C'est que nous sommes actuellement dans une configuration où c'est l'État qui se mêle de dire à des femmes comment s'habiller. Alors ça, excusez-moi, si c'est être féministe, eh ben, moi, je ne me réclamerai jamais de ce féminisme-là. Parce que les luttes féministes sont toujours allées dans le sens de plus de liberté pour les femmes. Jamais de moins de liberté, et surtout en présupposant qu'un choix est par défaut un mauvais choix. Et qu'une femme, quelle que soit la femme, quelle que soit sa culture, son niveau d'instruction, son niveau, sa culture d'appartenance, sa religion, quel que soit le pays dans lequel elle se trouve, a le droit de choisir la façon dont elle a de s'habiller. Alors, je disais que par rapport à ces nouvelles féministes dont je me réclame, dans la lignée de mes... quand je suis avec Christine Delphi et mes autres copines, je dis dans la lignée de mes mamans, mais je vais offusquer personne, puisqu'apparemment nous avons la même moyenne d'âge ici, dans la lignée, en fait, de mes copines, c'est en fait de tenter et de réussir, depuis en tout cas 2003, à faire bouger les lignes et en tout cas d'arriver à un objectif qui, pour nous, est un des objectifs de notre collectif, c'est-à-dire à faire interagir un engagement militant et une réflexion théorique qui s'est renforcée. Alors, je m'explique quand je dis ça. C'est-à-dire que notre engagement militant en tant que femme féministe, alors quelles que soient après nos appartenances, c'est un engagement concret sur le terrain contre des discriminations réelles. Notre réflexion théorique, même si elle est coordonnée, en tant que femme de confession musulmane, nous avons une spécificité. Et cette spécificité, ça a été depuis une dizaine d'années de nous engager dans des études théologiques chasse gardée jusque-là des hommes, pour une réappropriation et une relecture et une réinterprétation des textes dans une vision égalitaire. Pour dire quoi ? Pour dire que, armés de ce que nous savons maintenant en termes de bagage théologique et religieux, ce n'est pas le texte religieux, le texte coranique en l'occurrence, ni le message islamique qui sont porteurs de discrimination ou d'oppression à l'égard de femmes, mais c'est bien les lectures, les interprétations et les pratiques qui sont les vecteurs de quoi et les relais de quoi ? De pouvoir politique. Et les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, qui soit le fait ici, dans notre pays des droits de l'homme et des Lumières, on va faire semblant d'y croire, ou que ce soit dans des pays dits musulmans, on va faire semblant aussi d'y croire, sont bien le relais et des systèmes patriarcaux et des systèmes d'oppression des femmes. Et que donc cette réappropriation et ce retour par nous, oui, des femmes musulmanes, entre autres, parmi nos identités multiples, elle nous permet de mettre en avant et de déconstruire ces lectures. Et ça, c'est une des missions aussi. Alors, c'est pas une, là aussi, je relativise, je pondère. Ce n'est pas une mission, d'accord, de prosélytisme ou de conversion généralisée à nos principes. C'est une mission méthodologique pour faire entendre ça, en disant que soyez conscients qu'il y a des textes, qu'il y a des lectures, et elles vont de la plus affligeante, des plus rigoristes, des plus littéralistes, aux plus réformistes. Et qu'il y a des interprétations qui sont graduées sur la même échelle, et qu'il y a des pratiques. Et ces pratiques, il faut les prendre en tant que telles, comme le fait d'hommes. Et là, excusez-moi, je vais vous dire ce que je dis souvent dans tous les cercles où j'appartiens, où j'interviens, c'est que quand on a affaire à ces pratiques sexistes, machistes, misogynes, infériorisantes ou opprimantes pour les femmes, c'est parce qu'elles sont faites, elles sont le fait d'hommes qui défendent des privilèges et des statuts. Elles sont le privilège, pas de tous les hommes, je ne suis pas en train de prôner la guerre des sexes, c'est contre les hommes. Il y a des hommes, il y a des hommes féministes, hein, on s'entend. Elles sont le fait en plus je suis enregistrée, alors c'est à charge contre moi ça. Elles sont le fait de crétins qui n'ont rien compris et qui veulent simplement entériner des statuts de suprématie et de domination sur les femmes. Et deux stratégies, une stratégie double. D'abord un discours éminemment citoyen, c'est-à-dire que ces femmes féministes, donc dont moi je suis, nous sommes dans un discours citoyen, pas dans un discours particulariste ou communautariste, ou bien que je n'ai rien contre les communautés. Nous sommes organisées, nous sommes toutes appartenant à des communautés multiples, soit des communautés professionnelles, culturelles et autres. D'accord ? Mais je dis bien communautariste. Donc un discours citoyen qui dénonce des systèmes, un système profondément inégalitaire. Au sein de notre collectif, nous avons dénoncé, avant d'être auditionnés par la commission Gérin, nous avons promulgué un communiqué, et le titre très, très explicite disait 577 députés, 346 niqab, où est le problème ? Sous-entendu que 18% de nos députés sont des femmes, d'accord ? Et que je sache, en France, nous sommes censés avoir évacué le référentiel religieux. Donc si ça n'était que le religieux qui opprimait, je suppose que ça serait réglé dans les sociétés sécularisées. Jusqu'à nouvel an, ça n'est pas le cas. Et deuxième positionnement par rapport à cette double stratégie, comme je le disais, une réappropriation du référentiel religieux par les femmes dans une vision égalitaire, mais pas pour prôner ce que d'aucuns disent, la charia ou je ne sais quoi, d'accord ? Bien parce que, en tant que femme féministe, je suis vraiment sur des principes universels. Et universel veut dire quoi ? Ça veut dire pas un petit nombre qui décide pour la majorité. C'est bien dans la concertation et la consultation des premières concernées, élaborer et faire des propositions, d'accord ? Pour prendre en main et prendre en charge dans ce pays la question de ces... de ces discriminations dont sont victimes les femmes, et que je vous citais tout à l'heure, dans ce pays. Donc des politiques sociales, réalistes, équilibrées, adaptées, pour faire baisser le nombre donc des femmes battues, à qui il n'y a pas, jusqu'à pas très longtemps, jusqu'à maintenant, une femme battue, c'était à elle de quitter le domicile conjugal. Et monsieur qui la battait, ben, disposait de tous les avantages qui lui étaient dus au nom de son statut de mâle. Parenthèse que je voulais ouvrir, le chantage au conflit de loyauté. Et c'est une réalité que nous vivons aussi, nous, en tant que femmes, qui portons un foulard féministe. C'est ce perpétuel chantage au conflit de loyauté. Alors, d'un côté, des féministes, d'accord, qui nous sommes, qui nous enjoignent, qui nous assignent, à leur prouver, finalement, que nous sommes de vraies féministes. Et ça passe, évidemment, par le fait de renoncer au foulard. Peu importe que notre charte, qui est claire, déclare de manière ferme que le droit de ne pas porter le foulard suppose le droit de pouvoir le porter. Je sais pas, moi, ça me paraît les deux pendants d'un même principe. Mais apparemment, pas pour certaines féministes. Autre chose, conflit de loyauté par qui ? Par les tenants de ces privilèges dont je vous parlais tout à l'heure et qui nous assignent de manière inlassable, alors là, en tant que femme musulmane, à prouver que je reste loyale à ma communauté d'appartenance, que je reste loyale à l'islam, que je reste loyale au Coran, que je reste loyale à mes textes. D'un côté féminisme, donc assignation à prouver qu'on est bien des féministes, je ne sais pas sur quelle base. Et de l'autre côté, assignation à prouver qu'on reste bien musulmane. Alors, on est passé du statut d'indigène à après les descendants d'immigrés, à après les issus de... On en est maintenant les issus de la diversité. C'est très joli les mots, il n'y a que les mots qui changent en fait. Hein. On est dans un continuum. Hein. Aujourd'hui, c'est issu de la diversité parce que le mot diversité fait bien politiquement. Et on s'en sert parce que diversité sous-entendu toutes les couleurs. Mais sauf que concrètement, les disparités en termes de discrimination, c'est toujours les mêmes populations qui les subissent dans les mêmes zones de relégation. C'est toujours les mêmes populations qui sont discriminées, stigmatisées et renvoyées finalement à quoi ? Eh ben à leur sauvagerie parce qu'ils n'ont pas été bien civilisés. C'est dommage pour certains que la colonisation ne perdure pas. Sauf que manque de peau, hein. Moi de ce que j'en vois, elle perdure, mais de manière autrement insidieuse.
Alors quoi ? Faudrait s'excuser d'être ici, dire merci pour l'esclavage aboli, mais qui nous y a mis, qui trimballe une subite amnésie, serment l'hypocrite d'une conscience sale, alors que jadis ton pays, celui de Clovis, fille de l'Afrique, le sacrifice de son avarice, tirant bénéfice de ses terres, ses épices, de nos pères au supplice et à son sévère service. Et pour ça que reçoivent les fils, filles d'esclaves, une vie chargée d'entraves, parquée dans les enclaves où l'oppression est moderne, les sistras gouvernent. C'est le crépus que l'on veut crapule en cellule, esclave concerne des jobs subalternes, colonialisme habile. J'ai la mémoire indélébile lorsqu'on profite de mon profil, profane ma culture occidentale, procédure pendure, ma fierté, ma figure.
Ma fierté, ma figure.
Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de présence proscrite, méfiance prescrite. Le nègre égale parasite, slogan d'un accord tacite, sa source, acide pourri d'indigènes, revendiquant leur gène, pensant qu'on gaspille leur oxygène. Malgré les griefs, l'intolérance de ce fief, je refuse d'être conforme aux normes et nefs, étant déjà quota sous contrôle dès qu'on me frôle. Persona non grata, mon premier rôle. Après le mythe du bon sauvage, voici la hantise du clan D, du sans-papier alpagué, celui qui mange dans l'assiette du français de souche, qui fout la merde avec ses coutumes louches. L'étranger à l'origine de la névrose, la gêne d'une nation se plaignant d'overdose. De plus, certains de ma race s'assimilent à qui est-ce, prennent part au délit de face.
Vous êtes toujours à l'écoute de Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et vous venez d'écouter la première partie d'une conférence d'Isman Schuder.
sur la question de femmes, voile et féminisme. Et son intervention était entrecoupée d'abord d'un morceau de Samira Bramia qui s'appelle Jdoudna et d'un morceau de la rappeuse Kazek qui se délite faciès. Et voilà, on vous laisse écouter la deuxième partie de l'intervention d'Isman Shooder.
Moi, je trouve en tout cas que le constat est plus positif maintenant, et je vous assure, je ne suis pas idéaliste, est plus positif maintenant qu'il ne l'était dans le contexte d'exacerbation, d'hystérie collective de 2003, 2004, 2005. Il y a des féministes avec qui aujourd'hui, donc on parle, alors, il y en a avec qui on ne peut toujours pas parler, évidemment, d'accord, type CNDF, Collectif National pour les Droits des Femmes, type Femmes Solidaires, voilà. Mais il y a des... Et encore, je n'ai pas envie de généraliser parce qu'il y a des femmes au sein du CNDF, au sein de Femmes Solidaires, avec qui nous avons tissé des relations. Parce que tout simplement, le fait de nous retrouver sur des sujets, sur des luttes communes, je veux dire, il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures. On identifie les logiques et finalement le parti pris de l'autre concrètement dans le feu de l'action. Donc, hormis ces irréductibles, la configuration actuelle est beaucoup plus, en tout cas, est beaucoup moins tendue, on va dire, que dans le contexte 2003-2004, et nous sommes sur des actions convergentes. Et c'est un signe positif parce qu'enfin, on est en train de sortir des termes du débat qui nous sont imposés par le haut, évidemment toujours par les mêmes, par des hommes tant qu'à faire, et de se retrouver sur des questions qui préoccupent les femmes au premier rang et au premier chef. Ce qui dérange et ce qui choque, c'est que finalement, ben mince, une femme musulmane, en tout cas une femme qui porte le foulard, qui se dit féministe, qui se dit occidentale, finalement c'est une femme comme toutes les autres. Et excusez-moi pour, ben, elle est aussi emmerdante que les autres féministes blanches, et bien, ben c'est ça. Et ben ouais, ben oui, ben c'est ça, ben parce que justement, c'est au titre du fait que nous soyons des femmes et que nous soyons sur le terrain des droits. Et sur ça, je vous assure que l'union sacrée se fera toujours contre nous. Alors en conclusion... Pour ma part, au prisme, ou en tout cas basé sur un recul d'une dizaine d'années, sur mon expérience, moi je considère que seul un féminisme, ou en tout cas des féminismes au pluriel, ouvert sur la diversité des stratégies d'émancipation, et qui prennent en compte et qui respectent les modèles d'émancipation choisis par les femmes elles-mêmes, quelles qu'elles soient, ben, c'est un féminisme dans lequel nous pouvons toutes et tous, j'inclus les hommes féministes, nous retrouver. Et qu'actuellement, c'est ça qui marche et c'est la tendance qui se dégage. Alors, je ne dis pas que c'est gagné, mais en tout cas, c'est la tendance qui se dégage parce qu'il y a eu dialogue, il y a eu... C'est tellement... Moi, chaque fois, je renvoie... C'est Monique Rinon, une des copines au sein du collectif qui utilise toujours cette expression de détricoter parce que le maillage dans lequel nous sommes pris est tellement intriqué qu'il faut détricoter, déplier la pensée, déplier les non-dits, déplier les impensés qui traversent cette question justement des femmes et du féminisme. Et qu'on y a consacré le temps qu'il fallait dans une commission de notre collectif qui s'appelle Commission Islam et Féminisme, justement, afin de nous interroger les unes et les autres, mais de manière pacifiée, pas dans une espèce de réquisitoire ou d'inquisition à la Torquemada où on sommerait l'autre de se justifier sur le fait que pourquoi elle porte ceci ou pourquoi elle porte cela. Nous avons réussi à détricoter cela et à faire que, rendre à chaque sphère, justement, de cette complexité, de ces thématiques et de ces problématiques, la part qui lui revient et à la place qui lui revient. Donc un féminisme, je disais, donc ouvert sur l'autre, dans son altérité avec un grand A, et qui se place notamment au niveau des mouvements de femmes en général pour construire des solidarités féminines et féministes. Alors ces mouvements, donc les luttes de femmes féminines et féminines ou féministes, elles n'auront pas la même configuration, bien évidemment. Je veux dire, ce que vit une femme en Malaisie n'est pas ce que je vis ici, moi, en France, n'est pas ce que vit une femme en Afrique noire, n'est pas ce que vit une féministe aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Mais en tout cas, ce qui est transversal, c'est vraiment ces invariants, que j'appelle, mais en tout cas, invariants. Liberté de choisir, droit de se définir et de s'émanciper selon ses priorités et selon son propre rythme. Le respect des priorités et des rythmes de chaque femme doit être une préoccupation aussi des mouvements féministes. Deuxième point, en conclusion, c'est que inscrire justement ces mouvements de solidarité pour l'ensemble de toutes les femmes et de tous les êtres humains aussi, pour dénoncer un ordre du monde profondément injuste et inégalitaire. Et là, l'articulation avec d'autres modes de lutte est éminemment imbriquée aussi. Les luttes sociales, les luttes économiques, anticapitalistes et autres. Enfin, parler à partir de référents communs. Pourquoi ? Parce que bien souvent, la peur, peut-être que vous l'avez eu d'ailleurs, ben c'est peut-être pas une peur, hein. Pour certaines, je suis sûre, c'était une attente, pour d'autres, une crainte. Le fait que le discours que je développe soit un discours théologique ou religieux, ben c'est râpé. C'est râpé parce que le discours religieux, il m'importe à moi, en tant que porteuse de foi ou d'une spiritualité précise. Mais vous, il vous importe peut-être à titre individuel. Mais en l'occurrence, sur ce type de problématique, le discours religieux n'a rien à faire. Au contraire, il vient au contraire vicier les termes du débat. Et là aussi, certaines et certains ont intérêt à ce qu'on se contente ou qu'on développe simplement un discours religieux ou théologique. Autre point aussi, je voudrais insister au-delà du mot féminisme. Et j'entends aussi les frilosités sur la terminologie même et l'emploi de ce mot, au prisme aussi des histoires, de l'histoire avec un grand H, des uns et des autres, et de part et d'autre, alors j'aime pas de part et d'autre parce que ça fait eux et nous, elle et eux, c'est pas ça, mais de part et d'autre, j'aimerais aussi, là aussi, qu'on soit respectueux des histoires aussi des uns et des autres, et que certains mots sont porteurs de souffrance, de douleur et d'incompréhension. Et que ne pas prendre ça en compte, c'est s'exposer aussi, une fois de plus, à des malentendus et des quiproquos qui vont alimenter certaines et certains qui ont intérêt à ce que les malentendus persistent. Et dernier point, des questions. Donc je vous livre ces questions, peut-être qu'ils vont affleurer dans le débat. Le féminisme est-il le seul apanage, d'accord, de la civilisation occidentale ? Est-il indissociablement lié, comme on veut nous le faire croire depuis ces 20 dernières années, à la laïcité? Et moi, en tant que féministe, et ça, je l'ai reçu en héritage des féministes historiques. Et heureusement que les copines ne sont pas là, parce qu'à chaque fois que je dis historique, elles comprennent préhistorique. Donc de mes copines historiques qui disent qu'ils sont effarées quand elles entendent que le féminisme est devenu consubstantiel à la laïcité. Alors que jamais dans l'histoire du féminisme, la laïcité et a fortiori la République n'a été un vecteur d'émancipation pour les femmes. Les femmes se sont émancipées en France, dans ce pays, et il faut le dire, grâce aux luttes qu'elles ont menées elles-mêmes. Et y compris contre la République à certains moments de cette histoire. Et ça, on pourrait de toute façon le dupliquer à tous les espaces autres culturels. Les luttes de femmes, moi j'ai jamais vu, en tout cas dans l'histoire de ce que je connais, des luttes, des droits qui se confèrent. Les droits, ils se gagnent. Et pour les gagner, il faut lutter et entrer en résistance. Le féminisme est-il le seul apanage des femmes occidentales et peut-il s'imposer aux autres femmes par la force, celle de la loi ou celle des armes? Celle de la loi 2004-2010, loi dite sur les signes religieux mais contre sur le foulard, et loi dite dissimulation du visage, mais contre le voile intégral. Et par les armes, je vous rappelle, enfin, ce pourquoi on est en Afghanistan. Hein. Bon, je sais bien que vous n'y croyez pas, j'espère en tout cas. Hein. Mais que c'est pour émanciper la femme afghane. Son sort actuellement est pire que ce qu'il était avant l'occupation. Et enfin, dernière interrogation, il s'agit bien de se dire entre nous et de s'expliquer de quel féminisme parle-t-on et de quel féminisme veut-on être porteuse et porteur les uns avec les autres pour quel projet de société ensemble. Voilà, je vous remercie.
Every day that's my fuel. Sleep is so motherfucking boring. I'm too busy.
Vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope 97FM. On a écouté la fin de la conférence d'Isman Schuder et après un morceau de Master Mims.
Voilà, dans cette conférence Femmes, voiles et féminisme, Isman Schuder évoquait les 26 propositions de l'UMP sur la laïcité. Donc on a fait des recherches pour vous en dire un peu plus.
Et oui, parce qu'en fait, c'est pas très clair tout ça, c'est un peu compliqué.
Ouais, donc bon, ce qu'on voit, c'est qu'en avril, donc, ont été présentées ces 26 propositions. Alors, c'est présenté, quand on va sur le site de l'UMP, comme applicable immédiatement. Alors, bon, qu'est-ce qu'il en est dans les faits, quoi ? Ou après 2012, hein, en fait, ça fait très programme électoral, soyons clairs. Donc, qui tend à qui se présente comme voulant régenter de manière plus claire la laïcité. Alors, dans la présentation, c'est quand même aussi assez clair que bon, bah, c'est l'islam le problème. Alors, comme ils disent ça, c'est qu'au moment de la loi 1905, ont été pris en compte...
Le christianisme, le judaïsme, les protestants. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas des musulmans en France.
Voilà. Et du coup, il va falloir un peu plus régenter tout ça. Mais alors, ça se présente à la fois comme voulant protéger, garantir la liberté religieuse... Mais dans les faits, tout en permettant d'étendre clairement des pratiques de flicage, hein, de bonnes ou mauvaises pratiques religieuses, et des pratiques qu'on peut dire discriminantes dans de nombreux secteurs qui, par exemple, voilà, la loi Stasi, c'était dans le cadre de l'école, et puis pour les élèves et les professeurs. Mais alors là, ça pourrait aussi s'étendre dans plein d'autres domaines, comme le travail, les services publics. Alors là, il y a aussi un peu un agrandissement de qu'est-ce qui est appelé un service public, parce que tout d'un coup, ça vient aussi guichet qui reçoit du public, hein, et pas seulement les administrations, mais aussi la voie publique. Tout ça dans un climat particulièrement raciste et islamophobe, et aussi dans un climat de campagne électorale où ces questions-là sont des enjeux sur lesquels surfent les politiques dans leur campagne 2012. Alors pour citer quelques exemples qui nous ont particulièrement frappés là, dans ce qu'apparaissent de ces propositions, par exemple, des entreprises pourraient intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions encadrant les pratiques religieuses, les tenues et signes religieux. Donc ça permettrait par exemple légalement à des entreprises de renvoyer ou refuser d'embaucher une femme qui porte le voile. Alors ça peut déjà se faire, mais sauf que de fait c'est pas légal, donc il y a des recours en justice là-dessus, alors que là cette loi par exemple permettrait de le faire légalement en fait. Donc voilà, pratique discriminante. Un des grands trucs aussi qui a fait pas mal de bruit, c'est de refuser à des mères d'accompagner dans le cadre de l'école des enfants en sortie scolaire, des mères qui portent le foulard du coup.
Donc ça c'est aussi quelque chose qui existe déjà et notamment depuis la loi de 2004, mais comme tu le disais tout à l'heure, là qui serait légitimé, légalisé en fait.
Ouais, et il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont clairement fait des déclarations publiques que dès maintenant, il fallait interdire aux mères qui portent le foulard d'accompagner les enfants à l'école. Ceci malgré, par exemple, aussi les protestations des syndicats de parents d'élèves ou d'un certain nombre aussi de membres de l'éducation nationale. Il y a aussi l'idée d'un guide des bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Enfin, c'est aussi de quel droit l'État va se mêler de distinguer c'est quoi des bonnes ou des mauvaises pratiques au niveau de la religion. L'assimilation, donc, comme je disais, de services au public. Donc ça, service au public, ça peut être aussi un peu tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être...
La poste.
Ouais, la poste, même ça peut être des banques, hein, des guichets publics. En fait, tout ce qui recevrait du public à un moment, enfin, c'est un peu un flou, qui pourrait être assimilé à des administrations. Alors que c'est quand même deux choses différentes. Alors on voit aussi que, bon, ben, que ça vise clairement en fait, hein, l'islam au niveau des religions. Par exemple, il y a le fait que l'exercice du culte hors des lieux du culte serait subordonné à déclaration, sauf manifestation à caractère traditionnel. Mais alors, en France, ce qu'on appelle une manifestation à caractère traditionnel, c'est clairement toutes les cérémonies, cathos, etc., donc, qui peuvent avoir lieu hyper régulièrement, hein, que ce soit à Lyon, là, avec la fête de la Vierge Marie qui dure 15 ans, etc. Donc ça, il y aurait des exceptions parce que ça rentrerait dans caractère traditionnel, c'est-à-dire chrétien, en gros. Alors, un des trucs aussi qu'on peut voir, c'est que, par exemple, ce code de la laïcité, là, toutes ces réglementations, ça ne parle pas du tout de l'Alsace-Moselle, où, qui sont quand même des départements où la loi de 1905, en fait, sur la séparation donc, des religions de l'État n'est pas du tout appliquée. C'est-à-dire que, dans ces départements, les prêtres, les pasteurs, les rabbins sont payés par l'État.
Pour dispenser des cours de religion dans les écoles, c'est ça ? Dans les écoles publiques ?
Ouais, je suis même pas sûre que ça s'arrête en fait que ouais, la dispense des cours, quoi. Il y a aussi le fait que, mais en tout cas clairement il y a cet aspect-là, il y a le fait que la religion est obligatoire, sauf dispense parentale. Les parents devront d'ailleurs en fait préciser s'ils appartiennent à une, en gros, des quatre grandes religions monothéistes, quoi. Donc en fait, d'où pareil, les parents seraient obligés de déclarer ça, enfin, au niveau du respect de la vie privée. C'est quand même assez grave. Et voilà, donc ça fait aussi des écoles où, par exemple, les croix sont présentes, par exemple, dans les salles de classe, etc., sans que ça pose problème.
Et alors tout ça, ça ne rentre pas dans les nouvelles propositions pour plus de laïcité en France ?
Ah non, 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 pas un mot là-dessus. Voilà. Hein. Alors, faut quand même voir que ces départements donc, où la loi de 1905 n'est pas appliquée, ça représente quand même 3 millions de personnes. Mais alors, par contre, voilà, ça déclenche
3
pas...
3 millions
Oui.
C'est beaucoup ? Ah oui, oui, d'accord.
oui, oui.
Je suis choquée.
Bah, c'est-à-dire que oui, ça n'a pas déclenché en fait des grands débats en volée publique, tout ça, alors que par exemple, je ne sais plus le nom, mais voilà, une enquête donc aurait montré que 350 femmes en France porteraient le voile intégral. Bah, on en entend beaucoup plus parler que ces 3 millions de personnes qui vivent dans un cadre où cette séparation de l'État et des religions n'est pas appliquée. Donc tout ça, c'est aussi ben, vraiment la mainmise de l'État aussi sur un moment une partie de quelque chose qui concerne la vie privée des personnes dans le cadre d'une société de contrôle. Hein. Puis alors ça va quand même très loin aussi justement cette intervention de l'État. Par exemple, il y a quand même Copé qui a proposé que les prêches dans les mosquées soient obligatoires, qu'ils soient faits en français. Alors, on ne voit pas pareil de quoi l'État va se mêler de ça. Et bon, bah, il n'y a rien, par exemple, sur le fait, par contre, de faire des prêches en latin ou en hébreu. Mais voilà, dans les mosquées, ça devrait être fait en français. Donc, c'est vraiment aussi...
On imagine derrière les arguments contre les trucs terroristes.
Oui, c'est ça, pour bien comprendre ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment un espèce de truc ouais, de flicage, clairement, dans un climat sécuritaire, islamophobe, etc. Et en fait, tout, en gros, ces codes, ça permettrait un peu une étendue de persécution, hein, clairement, qui serait justement contraire à la loi de 1905, qui est aussi censée garantir les libertés individuelles religieuses. Et puis, ça conférerait réellement un statut d'exception pour les musulmans, encore plus que ça peut se pratiquer actuellement. Alors pour l'instant, ces propositions, je crois, il y a eu un premier vote à l'Assemblée, mais pour le moment, ça reste à l'état de proposition avec différents allers-retours, je pense, qui doivent se faire au niveau législatif et avec tout cet enjeu électoral.
Moi, je voulais revenir sur cette question d'islamophobie. Donc là, tout ce que tu viens de nous raconter, ça montre bien l'islamophobie grandissante dans notre pays, la France. Mais du coup, quand on parle d'islamophobie, moi, je trouve que finalement, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et j'avais envie de revenir concrètement. L'islamophobie, c'est la stigmatisation, c'est notamment la stigmatisation des personnes musulmanes ou qu'on suppose musulmanes. Et pour un peu essayer d'aller voir, est-ce qu'il existe des états des lieux de l'islamophobie en France actuellement, je suis allée voir sur le site du CCIF, donc le collectif contre l'islamophobie en France, qui a un site internet assez bien fait, qui se propose de relayer les discriminations, les agressions et de les compiler. et qui édite notamment un rapport annuel des discriminations et des violences islamophobes en France. Alors bon, moi j'ai lu le rapport annuel de 2010 qui fait état un peu des différentes agressions et trucs islamophobes. Et donc il y a les agressions de personnes. Donc dans ce qui a été recensé par le CCIF, 92% des agressions recensées ont pour victimes des femmes. Donc c'est surtout les femmes musulmanes qui sont victimes d'agressions verbales ou physiques du fait qu'elles sont musulmanes, par exemple parce qu'elles portent le voile. Et alors un chiffre que j'ai trouvé assez intéressant, enfin qui m'a un peu choquée et frappée, c'est que beaucoup de ces agressions sont l'œuvre de femmes. C'est-à-dire que les femmes musulmanes vont être agressées par d'autres femmes. Et alors je sais le chiffre exact, je l'ai pas, mais c'est beaucoup, c'est presque une, enfin bon, bref voilà, au moins la moitié. Excuse-moi. Et du coup, moi ça me posait question sur comment ça se fait en fait, d'où ça vient ce fait que ce soit les femmes qui vont agresser d'autres femmes. Dans le cadre, pour moi, de ces lois, justement, qui ont vachement attisé les tensions intercommunautaires et aussi, du coup, mis en place une espèce de comparaison entre les bonnes musulmanes, qui seraient les musulmanes modérées, et Saïs Mansouder, elle en parle, et les mauvaises musulmanes qui porteraient le voile, qui seraient intégristes, tout ça. Donc je me demande si c'est peut-être aussi dans ce cadre-là qu'il y a des agressions. Et puis, entre les femmes en général... qui vont se juger les unes les autres.
Je trouve que c'est aussi le truc que dans tous les débats là, autour de ces lois, par exemple, le port du foulard ou du voile par certaines femmes s'est présenté comme une menace pour toutes les femmes, en fait. Donc je trouve de ça, ça découle le fait que des femmes puissent avoir des réactions qui finalement sont plus peut-être passionnelles ou émotionnelles et violentes que des hommes, parce que c'est comme si le fait qu'une autre femme porte le voile les menaçait elles-mêmes dans leur liberté individuelle, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc qui joue là-dessus, de division, clairement.
Et sur les autres discriminations et violences islamophobes, on retrouve beaucoup de discriminations dans l'accès aux services publics, et tu en parlais tout à l'heure, et les principales services publics qui sont concernés, c'est les écoles, donc voilà, les guichets publics et également les services de police. Et ça recense aussi les violences contre les institutions, que ce soit les profanations de cimetières, les dégradations de mosquées, etc. Et pour finir, je voulais donner un exemple d'une histoire d'agression islamophobe que je trouve assez parlante, parce que très violente. Donc c'est l'histoire, c'était le 16 avril 2011, c'est intéressant aussi parce que ça se passe une semaine après que la loi sur le voile intégral soit votée et applicable. Et donc, c'est l'histoire d'une femme qui porte le niqab, le voile intégral, qui est au zoo avec son jeune enfant de 14 mois et qui ont été agressées par trois personnes, deux hommes et une femme. Donc, dans ce zoo, elle a été insultée, on lui a arraché son voile, elle a été plaquée contre le grillage, contre un grillage, alors qu'elle avait son enfant dans les bras. Et que ça se passe une semaine après la mise en application de la loi, je trouve que c'est bien le signe qu'en fait ce genre de loi légitime la violence des personnes qui parce que elles sont contre le voile ou seraient choquées par ça, vont se sentir légitimes d'aller agresser physiquement et de façon assez quand même violente une femme parce qu'elle porte quelque chose qui ne leur plaît pas. Et je trouve cet exemple assez significatif. Je doute qu'il soit isolé. Je pense qu'en fait, vraiment, ce genre de loi a vraiment multiplié et légitimé le racisme et l'islamophobie.
Ouais, le sexisme, du coup. Alors que la loi est présentée comme étant censée, justement, protéger des femmes. C'est tout le contraire qui se passe. Et alors, dans la conférence... donc qui a eu lieu. Il y avait aussi une suite qui était plus des questions et voilà des participations du public. Entre autres, il y a des femmes qui portaient le foulard, qui ont posé les questions des discriminations à l'embauche, des discriminations dans l'accès au travail. Donc on va vous repasser des réponses d'Isman Schuder voilà, pendant ces questions du public, et notamment premièrement sur ces questions de discrimination dans l'accès au travail.
Ces deux slogans aussi de lutte et de résistance. D'une part, la peur ne permet pas de changement, et deuxièmement, le silence est le meilleur vecteur pour entériner une discrimination. Je veux dire, et quand on sort de la peur et quand on sort du silence, et qui sont légitimes bien des fois quand on est discriminé, hein, je veux dire, on reprend possession de sa vie. Et dans les cas de discrimination, même dans les cas de harcèlement sexuel dans les entreprises, harcèlement moral et tout ça, la première qui brise le silence met fin au cycle des discriminations. Et ça marche. Moi, dans mon cas, ça a marché. Je travaille, je suis formatrice à l'école supérieure de journalisme avec mon foulard. Et c'était non négociable la première minute de mon entretien. Le préalable, en l'occurrence, pour une population sujette aux discriminations, c'est de connaître mieux que tous les autres nos droits. Et surtout ce type de discrimination. En tout cas, ne pas avoir peur, en tout cas ne plus avoir peur, briser le cycle de la peur, parce que c'est dans ce coin on nous enferme, hein. La peur de ne pas avoir travail, la peur de ne pas avoir ceci, la peur de ne pas accéder à un logement, la peur de ne pas accéder à un travail. Et ça, et il faut que ça cesse maintenant, avec notre génération. Et dernier point, il y a quelque chose que j'ai entendu il y a des années de la part de Saïd Bouamama, un sociologue. Il a dit, il y a quelque chose en fait de persistant en fait, une persistance dans nos continuums, pour le coup colonial. C'est trois critères par rapport aux anciens indigènes, après issus de l'immigration, issus de la diversité, et ainsi de suite. C'est que les critères permanents de cette catégorie de population, c'est quoi? C'est qu'il y a une sommation implicite, elle devient de plus en plus explicite maintenant, à être quoi? Être invisible, à être poli, oui buana, non buana, oui monsieur, non monsieur. Et troisièmement, et surtout ça, c'est être apolitique. Surtout ne revendiquez rien. Et surtout pas vos droits. On s'en occupe, nous on gère. Et quand on sort de cette logique, je vous assure, on marque des points. Parce que les raisons d'espérer existent. Mais est-ce qu'on quiert individu après individu? Donc, foncez. Sur la question du vol intégral. Alors, moi, mon point de vue personnel, d'accord, étant entendu que je vais nuancer, parce que, étonnamment, quand une femme qui porte un foulard parle, la projection qui est faite, et ce n'est pas un procès d'intention vis-à-vis de vous, c'est que c'est toute la communauté musulmane dans le monde entier qui parle. Donc, c'est moi, Isman Schuder, et je vous prends tous à témoin, là. Il n'y en a pas un qui va sortir d'ici, qui va dire... Donc, je ne suis pas favorable au port du voile intégral, d'accord. Sauf que j'estime que dans un pays de droit, nous n'avons pas à recourir à une loi pour interdire une femme qui a fait ce choix-là de porter, de s'habiller comme elle veut. C'est pas parce que j'ai un avis particulier sur une tenue particulière que je vais chercher à imposer mon point de vue en passant par la voie juridique ou la voie législative. Je veux dire, là, on verse dans le totalitarisme le plus absolu. Sous prétexte, il y a mille et une personnes à qui mon apparence déconvient ou disconvient, et en fait, on va légiférer parce que, pour moi, en fait, je vais faire passer un point de vue, d'accord, par rapport à la projection ou par rapport à la symbolique dont j'ai investi cette tenue. Et donc, l'autre question, c'était... Alors, les musulmans doivent-ils quitter le pays? Ben, excusez-moi, moi je suis française, hein. Donc je suis française et j'estime que dans ce pays les conditions sont réunies pour que tout le monde vive en bonne intelligence au-delà des particularismes des uns et des autres. Et je m'appuie en cela sur la loi de 1905, d'accord. Et en cela le rapporteur de la loi de 1905, Aristide Briand, disait que la loi de 1905 a été promulguée de telle façon à ce que chaque citoyen de ce pays n'ait jamais à choisir entre la République et ses convictions personnelles. Je m'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 2 et suivant, la liberté de conscience, la liberté d'exprimer sa religion, d'accord, en privé ou en public. Je veux dire, toutes les conditions sont réunies pour que je sois chez moi ici, et je suis chez moi ici. Après, prenez-nous 9 mois, je m'engage, je lutte et je résiste, d'accord, contre justement un droit d'exception vis-à-vis d'une catégorie de population particulière. Et j'ai un arsenal juridique qui me permet de le faire, et sinon j'ai un engagement militant depuis ces 10 dernières années, et je m'inscris, voilà. Alors à chaque fois que quelque chose va être promulgué qui ne me plaît pas, je vais me balader à travers le monde entier. Si je quitte ce pays, c'est parce que c'est un choix, c'est un projet de vie personnel ou professionnel, mais qui résulte d'un choix. En l'occurrence, si je suis amenée à quitter ce pays parce qu'on vote une loi qui va contre ma liberté religieuse de conscience, ça n'est plus un choix. Et là, c'est la double peine. Donc déjà, j'en ai une, je ne vais pas m'en rajouter une deuxième. Pour ceux qui connaissent l'histoire française, nous sommes dans un système assimilationniste par définition. Le système français a vraiment ce marqueur d'assimilationnisme. Ça veut dire renoncer à une part, ou une grosse part pour certains, de votre culture, d'origine, votre appartenance, multiple et tout, pour adhérer en fait à une espèce de truc, je ne sais pas à quoi ça correspondrait, parce que ça m'échappe complètement, monolithique. Voilà, afin d'être estampillé bon français. D'où la question d'identité nationale et ainsi de suite. Et par contre, ce qui est commun et qui doit être appliqué, ou en tout cas applicable à tous, c'est la loi commune et le droit. Et en l'occurrence, on est là petit à petit en train de grignoter et d'instaurer un droit particulier, un droit d'exception vis-à-vis d'une certaine population de ce pays. Et ça, c'est inacceptable. Nous, en tout cas, on n'a pas de cesse de dire que la question, c'est pas pour ou contre le foulard. C'est une question en soi qui n'a pas de sens. Parce que justement, comme on est dans le domaine de la symbolique, la question du signe, d'accord, la question, ça c'est Pierre Thévanian, mon co-auteur, il n'a de cesse de le répéter, ça. D'accord, un signe, il a la signification que lui donne celui qui le revêt. Il n'a pas d'explication en soi définitive, généralisée, globale. Et quand on met le curseur sur des questions concrètes, ce que ça produit comme exclusion, comme stigmatisation, comme humiliation, je veux dire, vous avez un livre là, que j'ai co-écrit avec Pierre Thévanian, voilà, du concret. Ce sont des effets racistes, sexistes, avec les deux arguments qui énervent les 45 témoignages de ces jeunes filles et de ces femmes, les deux arguments, et ça c'est des arguments palpables, retourne dans ton pays, retourne dans ta cuisine. Si c'est pas raciste, c'est pas sexiste, je sais pas ce que c'est. Et ce sont des logiques qui traversent tous les individus, y compris les plus sincères. Et d'ailleurs, nous, à tel point que nous avions à nos côtés, contre le projet de loi 2004, des gens qui étaient contre le foulard, mais contre la loi. Et les articulations, c'est pour ça que c'est pas simple. Mais là, arrive un moment, voilà, il faut recentrer et il faut en fait repolariser les termes du débat sur les vraies questions. Pas des trucs fantasmés qui sont charriés par quoi. De toute façon, on sait très bien que l'imbrication politico-médiatique, c'est eux qui font l'opinion publique. En 2003, il n'y avait pas de problème du foulard. La question du foulard, c'est un projet politico-médiatique.
Pour moi, c'est rien qu'un très grand hôpital. Je passe ma vie en isolement depuis qu'on dit que je suis malade. J'ai 16 ans, je m'appelle Lily. J'avais tout pour réussir. Un avenir dans la médecine, j'aimais les chiffres et les livres. Mais à l'école, je suis contagieuse, ils ne veulent plus que j'y aille. Les médecins ont dit c'est mieux pour vous de rester au calme. Votre visage fait peine à voir, il porte la souffrance. Pourtant, moi j'ai l'espoir d'un jour épater la France, ce pays qui m'a vu naître. Moi je l'aime et le respecte, c'est pas de ma faute si j'ai dans le cœur un virus que lui rejette. C'est pas de ma faute si je vis en marge, c'est qu'on m'a mise à l'écart. Ils ne connaissent pas mon histoire, je suis victime de leur regard.
Lily.
Alors Alors je vis dans ma bulle, au moins chez moi, il y a de l'amour. Mes copines m'apportent les cours le soir pour que je reste dans le coup. Elles ont crié à l'injustice, elles ont même fait des manifs, mais rien n'y fait. Je suis une cible, mais mon cœur est invincible. Je m'accroche, je reste moi-même. Ouais, je reste fière, j'ai mes valeurs, donc j'ai mes rêves de paix ou d'humanitaire. Dès que je sors, c'est l'horreur, je fais pitié. Je dérange, moi qui pensais qu'étant des leurs, je véhiculerais la tolérance. Mais non, bleus sont mes yeux, blanche est ma peau, rouge est mon sang. Mais pourtant, je me sens seule dans mon camp. Je me soigne avec des livres, je me soigne avec tes mots, plus je guéris, plus je dérive, plus je péris aux yeux des autres.
Lily.
J'ai beau leur dire que je suis normale, que je suis entière, que je supporte mal, que l'on me traite comme si j'étais en guerre, que je suis juste pudique, que je n'aime pas que l'on m'observe. Ma démarche, ma m'énerve, y'a qu'à leurs yeux que ça énerve. Je ne mérite pas que l'on me prive d'études ou d'éducation. Elle n'est pas laïque, cette nation. Elle craint juste la contagion. C'est pas une fille que d'être jugée pour ses formes, jugée pour un uniforme. Comment l'amour peut être jugé par des hommes? Car c'est bien là tout le problème. Dans le fond, je suis aimante. Leur seul argument pour vous dire à tous que je suis gênante, c'est de vous dire que je suis l'ennemi. Parce que je suis une femme convertie et que je porte le voile.
Dégenré, Radio Kaléidoscope 97 FM, on termine notre émission dans pas très longtemps. Donc on vient d'écouter la conférence, des morceaux, des extraits de la conférence d'Isman Schuder, qui pour nous pose de façon efficace et pertinente les termes du débat sur cette question du voile et des lois discriminantes contre les femmes musulmanes en France. Nous, on avait envie de dire en conclusion qu'en tant que féministe, on se pose contre, enfin, on se positionne contre les discriminations de femmes pour des raisons d'appartenance culturelle ou religieuse, quelles que soient les raisons, voilà. Et en tant qu'anarchiste aussi, contre l'intervention de l'État sur les choix des personnes, de comment elles veulent s'habiller ou quoi. C'est un peu rapide, on pourrait plus développer, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Alors, on avait au moins envie de le dire un peu comme ça. Finir aussi avec une bibliographie. Donc, Isman Schuder parle à plusieurs reprises du livre qu'elle a écrit avec Malika Latrèche et Pierre Thévagnan, qui s'appelle « Les filles voilées parlent » aux éditions La Fabrique, et qu'on vous recommande vraiment, 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 parce qu'il est très parlant sur la question des discriminations suite à la loi de 2004. Également un numéro de Nouvelles Questions Féministes, qui donc est une revue internationale féministe, sur sexisme et racisme, le cas français, qui date de 2006. C'est le numéro 1 du volume 25. C'est pas facile à trouver, NQF, mais dedans il y a plein d'articles super intéressants. Et un autre bouquin qui s'appelle Rentrée 2004, une vérité dévoilée, par le comité 15 mars et Liberté. Alors ces livres sont pas forcément simples à trouver, mais vous pouvez les trouver à la bibliothèque féministe tous les jeudis de 16h à 20h au numéro 5 de la rue Bergson à Grenoble.
Où vous pourrez aussi trouver donc le film aussi Un racisme à peine voilé, qui aborde aussi ces questions suite à la loi.
J'avais aussi envie de conseiller le site internet Les mots sont importants, notamment mené par Pierre Thévagnan, qui s'est pas mal engagé sur cette question-là. Le site internet du collectif féministe pour l'égalité. Et voilà.
Et on voulait aussi vous rappeler que à Dégenré, on a fait déjà trois émissions sur cette question, que vous pouvez donc réécouter. Alors en octobre 2004, c'était quelques éléments contre la loi Stasi interdisant le port du voile à l'école. Donc Voilà, à partir de textes, des collectifs, une école pour toutes et tous, les mots sont importants, et d'interviews du film Un racisme à peine voilé. En octobre 2006, une émission sur les répercussions, cette fois-là, de la loi Stasi, avec trois invités qui témoignent de leurs propres expériences. Et en novembre 2006, une analyse de la, on va dire, parallèle de la loi Stasi et de la loi sur le racolage passif, qui cette fois-ci vise les prostituées. Dans le fait que c'est deux lois contre les femmes, enfin nous c'est comme ça qu'on l'analyse, et deux lois qui en fait sont misogynes et racistes, et qui vont cibler les deux extrêmes des stigmates de femmes, c'est-à-dire entre guillemets les putes d'un côté et les soumises de l'autre. Donc deux lois qui, a priori comme ça, n'ont rien à voir, mais de fait pénalisent les femmes, que ce soit les prostituées ou les femmes portant le voile, en tentant de réglementer leur corps dans l'espace public ou au niveau de leur habillement, et répriment les femmes. Et voilà, en analysant aussi le fait que ces deux lois ont pourtant peu mobilisé les solidarités féministes.
Alors, toutes ces émissions, vous pouvez les trouver, et les autres émissions de Dégenré, sur le site d'Indie Media Radio. Donc, dans un moteur de recherche, si vous tapez Dégenré Indie Media Radio, vous devriez tomber sur notre page où sont répertoriées les différentes émissions que nous faisons depuis plusieurs années.
Et on va passer à quelques infos sur...
l'agenda.
Voilà, de qu'est-ce qui se passe à Grenoble. Alors, pour commencer, le 15 juin, à Antigone, à 20h, une soirée identifiée et combattre le masculinisme. Donc une soirée d'infos et de discussions ludiques pour apprendre à identifier, décortiquer les discours masculinistes et construire nos arguments. Donc ça aura lieu à Antigone, qui se trouve au 22 rue des Violettes, tram C, arrêt Vallée-Catane. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette soirée, on vous recommande d'aller sur le site d'Antigone ou sur Indie Media Grenoble.
Dans un peu plus longtemps, enfin dans pas si longtemps que ça d'ailleurs, dans deux semaines, le week-end du 17 et 18 juin et 19 juin, il va y avoir tout un week-end consacré à la thématique des femmes et du tatouage, proposé par Dali Dark, qui est un collectif de meufs de Gouine et de trans, féministes, qui organise des événements pour promouvoir en gros la culture de meufs, quoi. Je vais vite. Et donc c'est un week-end autour de meufs et tatouages, avec le vendredi 17 juin au soir un cabaret en non-mixité femmes, Gouine, trans. Donc cabaret, scène ouverte, possibilité de monter sur scène pour faire un slam, pour pousser un coup de gueule, pour chanter une chanson, pour faire un numéro de clown, peu importe, c'est libre expression, comme on dit. Le lendemain, le samedi soir, un concert. Donc le lendemain, samedi 18 juin, en mixité cette fois-ci, un concert avec Sian Lo-Fi, l'épreuve de skids, 666, c'est Grâce et Volupté Van Van. Et le dimanche, à 13h, un brunch et une discussion sur ce rapport entre meuf et tatouage, tout ça. Et le vendredi et le samedi aussi, un resto vegan à 19h avant les festivités, comme on dit.
Et on voulait aussi vous rappeler que le 18 juin, donc samedi à Lyon, ça sera la marche des fiertés lesbiennes, gays, bi, trans. Alors voilà, cette marche, ça reste quand même un événement avec beaucoup de trucs commerciaux et puis défauts au niveau politique où c'est difficile de s'y retrouver parce que par exemple l'affiche de cette année c'est quand même « Je marche en 2011 et je vote en 2012 » qui personnellement n'est pas un slogan qui m'inspire. Mais en même temps justement, c'est important aussi d'y aller pour pouvoir faire entendre d'autres voix
diversité,
et d'autres revendications, par exemple là en tant que transpédéguine féministe. Et puis voilà, on va vous laisser...
On a oublié d'annoncer la chanson qui terminait le montage des questions. Et quelle chanson, Lily de Diams. Alors elle a un petit côté mélodramatique, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas elle était tout à fait pertinente vu ce dont on parlait ce soir.
Et on vous laisse avec un morceau du groupe de meuf punk CTB qui s'appelle 8 mai 45 et qui rappelle justement les massacres perpétrés par la France coloniale le 8 mai 45.
Bonne soirée.
Bonne soirée, à bientôt.
Je Thank you.